this fight going on?
Outside Kabul.
Été 2022, partir ou rester, un choix sans fin. Ceci est le premier épisode d'Outside Kabul. Je vous propose d'écouter les histoires de deux jeunes afghanes, racontées par elles-mêmes, à travers les sons qu'elles ont enregistrés. L'une est arrivée dans une famille d'accueil en Allemagne. L'autre, à Kaboul, vient de se marier. La situation là-bas est instable, imprévisible, surtout pour les journalistes. Alors à trois, on commence à chercher des informations sur les démarches pour l'évacuer, si un jour ça s'avérait nécessaire. C'est moi qui ai le plus de contacts, mais je n'ai jamais fait ça. Alors je pose mes questions de débutante aux journalistes qui s'y connaissent, et c'est à peine si j'ai pas tapé « Comment sortir quelqu'un d'Afghanistan » sur Google.
Je suis désolée, je n'ai pas compris votre demande.
Pour commencer, on crée un groupe WhatsApp spécifique pour ces démarches. Un groupe à nous trois, avec Raha et Marwa. On forme désormais une équipe de débutantes. Notre groupe s'appelle sobrement Marwa plus Raha. Et avec du recul, je pense que j'aurais pu trouver plus flamboyant.
Hi, Carmen.
Salut. Trop bien de te voir.
Et on organise un appel vidéo. C'est la première fois qu'on va se parler comme ça, en direct. La première fois qu'on se voit.
Je suis là. Comment ça va? J'ai peur de ne pas pouvoir vous montrer ma tête. C'est l'obscurité totale. On n'a plus d'électricité. On te voit un peu quand même. Vous pouvez juste voir mes dents. Trop contente de te voir.
Jusqu'ici, on s'en était tenu aux notes vocales, aux messages qui arrivent avec un décalage. Cette fois, elles sont là. Marwa dans une maison allemande et Raha dans le noir. Tout à coup, l'électricité revient. Les lumières s'allument autour d'elle.
Félicitations.
J'avais seulement vu quelques photos de Raha, qui est à Kaboul. Là, elle est en mouvement. Des grands yeux très maquillés, des grands cheveux bouclés et un grand sourire éclatant.
C'est un miracle, en vrai.
Et puis, elle est habillée dans une robe très élaborée pour accueillir les invités qui viennent la féliciter, ainsi que sa famille, encore un mois après son mariage.
Oh, wow, beautiful.
Dans la saison 1, je n'ai pas osé poser trop de questions sur l'amour et sur l'intime. Ou quand je le faisais, elle ne répondait pas toujours et ça me semblait important qu'elle puisse laisser des silences. Mais là, à 3, en direct, et maintenant que Raha m'a parlé de son mariage, j'ose la question.
Vous avez fait des mariages d'amour, tous les deux?
Oui. Oui, on est des exceptions.
Et comment ça se fait que vous avez fait des mariages d'amour et pas des mariages arrangés?
Peut-être parce qu'on fait partie d'une nouvelle génération.
Raha et Marwa avaient le même âge que la démocratie fragile, instaurée après la chute du premier régime taliban. Et elles se pensaient comme la génération qui allait transformer l'Afghanistan. Elles avaient des aspirations professionnelles et personnelles, semblables à celles des jeunes, comme elles, qu'elles observaient ailleurs dans le monde, via les réseaux sociaux.
Ça a toujours été comme ça. J'ai jamais voulu d'un mariage arrangé. Je suis très proche de mon père et quand j'étais adolescente, je lui disais que je voulais choisir mon futur mari moi-même. Et ça le faisait rire. Oui, c'est pas courant, c'est très inhabituel en Afghanistan. Pour une fille, parler d'amour et de mariage avec sa famille, ça se fait pas. T'as pas le droit.
On parle d'amour. J'aime bien les écouter interagir. Mais en réalité, si on est là, c'est pour commencer à échafauder un début de plan pour l'évacuation de Raha et sa famille. On ne sait pas si elle voudra partir un jour, mais en cas de problème, on veut qu'elle puisse le faire. C'est avec l'argent du podcast et du film d'animation qu'elle a payé les passeports de toute sa famille.
Vous pourrez me redire dans quel magasin vous l'envoyez à Kaboul?
On a trouvé des arrangements avec les producteurs, mais c'est moi qui lui ai envoyé les sous via des systèmes de transfert de cash, ce qui m'a permis de circuler en ville pour la première fois avec des énormes liasses dans les poches.
Merci beaucoup.
Et aussi d'apprendre à connaître des agents de banque en ligne partout dans le monde.
Vous êtes dans quel pays?
Je suis portugais, mais je travaille en Suisse.
En Suisse? Incroyable.
Oui.
Ce faisant, j'ai aussi transgressé une des premières règles qu'on apprend à l'école de journalisme. Ne pas payer ses personnages, entre guillemets. Mais à mesure que ce projet de documentaire tourné à distance évolue, que la relation avec Marwa et Raha, instantanée grâce aux nouvelles technologies, inédites pour elle et moi, se transforme, cette série, ce dispositif, pose des questions dont on ne m'avait pas parlé en école de journalisme. Il faut réinventer les règles entre nous régulièrement. C'est passionnant et un peu inquiétant.
Bonjour Caro. J'ai eu ton message. Je suis désolée, je suis dans la rue. Et puis il y a tout le monde qui là de course qui font du bruit. Je passe devant une boutique de vin, mais ça, on s'en fout qu'on peut.
Je parle de tout ça avec mon amie Elisa Mignot. On était ensemble à l'école de journalisme. À l'époque, elle venait cuisiner chez moi des dîners dans ma salle de bain de CTU quand on avait la flemme d'aller jusqu'à la cuisine commune. Ce genre d'amis.
Écoute, moi je trouve ça quand même hyper sain de se poser toutes ces questions, parce que même si t'as pas toutes les réponses, forcément il n'y a pas d'évidence.
Et depuis, on a toujours beaucoup échangé sur la pratique de nos métiers de journaliste. Quand on a des doutes, des questions, on en discute ensemble. Mais ça, on le fait beaucoup plus encore depuis 2 ans. Parce qu'au moment du début de la guerre en Ukraine, Elisa a commencé à travailler avec des sœurs ukrainiennes, Olga et Sacha, pour publier leur correspondance chaque semaine dans le journal Le Monde. Cette correspondance est ensuite devenue un livre. Elle s'est posé beaucoup de questions avec ce projet, les mêmes que moi, sur l'éthique du journalisme participatif. Comment accompagner 2 jeunes femmes quotidiennement à travers des événements terribles quand on vit soi-même en paix? À un moment, alors que je discutais avec elle de l'évacuation de Raa, je pense, elle m'avait mise en garde. Attention de ne pas te noyer. Quand je lui en reparle des mois plus tard, elle m'envoie cette note vocale.
Je viens de coucher les filles et tout, donc j'ai peut-être le cerveau moins réveillé après 35 berceuses. Je pense pas que le problème, ce soit tellement de se noyer dans les sujets. Le problème, c'est d'accepter que la relation, elle va évoluer. On a cette espèce d'idée qui est ancrée, parce que c'est comme ça qu'on a appris notre métier, de, je dirais pas d'objectivité, mais de neutralité en tout cas, et de distance vis-à-vis de son sujet. Sauf que certaines fois, ça se passe différemment, et notre implication est de plus en plus grande. Quand tu commences le projet, tu sais pas où il t'amène, et quand tu commences le projet, tu commences en fait une relation. Et c'est pour ça qu'on en arrive aussi à des formes un peu hybrides, où les personnes avec qui on travaille, qui étaient des sujets à l'origine, deviennent des co-auteurs et des co-autrices, parce qu'en fait, ils prennent en main aussi le récit. Et vous trois, vous cheminez ensemble sur finalement un chemin que toi, tu connais un peu plus, parce que t'es journaliste, mais ce chemin-là, tu le connais pas vraiment. T'as jamais été aussi loin dans des sujets, aussi loin dans l'intimité des gens. Mais en tout cas, le chemin sur lequel vous êtes, c'est l'inconnu pour tout le monde. Je crois que je m'égare. Je m'arrête. Je t'embrasse.
Elisa a raison. Il va falloir s'adapter, moduler, tout en avançant. Raa a 22 ans. Elle se demande s'il faut qu'elle quitte l'Afghanistan. C'est évidemment vertigineux. Moi, je me retiens de l'encourager à le faire. Égoïstement, ça me soulagerait de la savoir en sécurité, en dehors de son pays. Et en même temps, je me sentirais horriblement coupable qu'elle doive partir à cause de ce projet. Je ne veux surtout pas l'influencer. Je tente de lui donner des informations aussi objectivement que possible. Ça me semble être la limite déontologique. Je peux organiser les réunions, envoyer des liens Zoom, contacter des gens pour des lettres de soutien à son évacuation, mais pas plus. Raa semble seule et en demande de conseils.
Si je trouve un bon boulot ici, je reste. Si j'en trouve pas, alors je devrais quitter le pays à cause du film avec la BBC. Donc on verra.
Donc si tu trouves un bon job, tu crois que tu voudrais rester ?
Je sais pas. Vraiment, je sais pas.
Je suis pas d'accord.
Vraiment ?
Non, je suis pas d'accord.
Pour des raisons de sécurité ?
Oui, on se dit que c'est notre pays, que c'est chez nous, qu'on veut rester pour prendre soin de nos familles. Parce qu'on a un rôle à jouer ici. Mais à un moment donné, tu ne peux plus rien faire. Ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour ton pays, si tu es en danger.
C'est clair.
Ça fait plus de 11 mois que ça dure et les gens ne savent toujours pas qui sont vraiment les talibans. Comment ils traitent les personnes qui ont travaillé avec le gouvernement, avec les médias et les organisations internationales.
Oui, ils sont imprévisibles. À certains checkpoints, les talibans t'arrêtent, ils contrôlent la voiture, ils ne calculent même pas s'il y a une femme. Et à d'autres checkpoints, ils arrêtent la voiture et te demandent pourquoi tu ne portes pas ta burqa. Et tous les gens qui quittent le pays,
C'est ça les vrais problèmes. Et est-ce que ce sont des raisons qui te poussent à partir dans l'absolu ? Moi, je me sens si mal que pour des raisons de sécurité, tu sois obligé de quitter le pays. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu de toute façon ? Tu avais prévu de partir quoi qu'il arrive ?
Yes.
Marwa aussi, à ce moment-là, doit prendre une grande décision. Celle d'aller étudier en France ou rester en Allemagne. Comment ça, me direz-vous ? Pardon, je sais que je parle beaucoup dans cet épisode, mais je veux pas vous perdre, il y a plein de choses à rappeler. Depuis le camp de réfugiés où elle a passé 7 mois, Marwa avait postulé pour entrer à HEC, une grande école française très prestigieuse.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question ? Je n'ai pas une très bonne connexion parce que je suis dans un camp de réfugiés.
Elle était convaincue d'être disqualifiée.
J'ai perdu la connexion. J'ai pas d'autre option et je vais rater mon entretien.
Mais arrivée en Allemagne, quelques jours seulement après la balade face à la mer, elle apprend que sa candidature est retenue et qu'elle aura même une bourse. Voilà ce qu'elle me répond quand je lui écris pour la féliciter.
It feels so good.
Je me sens super bien, merci. Tellement bien. Je suis tellement contente, merci. C'est vraiment un gros truc pour moi. On a un stade de notre vie où on recommence tout, on construit tout à partir de rien. Alors il faut qu'on réfléchisse bien avant de se décider.
J'ai envie de pousser Marwa à accepter la proposition d'HEC. J'essaye là aussi de me retenir. Je ne comprends sans doute pas tous les enjeux pour elle. Il y a les questions administratives. Elle est inquiète des conséquences pour leurs papiers. Et puis c'est rare pour une jeune femme de partir vivre seule, loin de son mari. Car lui devra rester en Allemagne pour avoir accès à leur seule ressource de ses premiers temps, l'argent qui lui est donné par l'État allemand. Marwa n'y aura plus droit en France et ils vont devoir vivre avec très très peu. Lui la soutient et l'encourage, mais elle m'écrit pour me dire que normalement, il est attendu d'une femme qui se marie en Afghanistan, qu'elle reste auprès de son mari et qu'elle ait un enfant au plus vite. Elle a appris qu'elle aurait là-bas une chambre seule, assez grande pour accueillir régulièrement son mari. Elle utilisera ses sous du podcast pour payer ses dépenses. Et quand elle annonce la nouvelle de ce projet aux familles, ils la félicitent et la poussent eux aussi à accepter. Elle est soulagée.
Je suis au deuxième étage. Et je fais ma valise pour la France. Pour moi, c'est la preuve qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve et qu'il faut garder espoir. C'est super. Allez, il faut que je fasse mes valises.
Son mari l'accompagne pour l'aider à s'installer. Ils prennent le train à Lübeck, puis un bus de nuit depuis Hambourg jusqu'à Paris. Je vais les chercher à la gare routière de Bercy.
Hello.
Il y a un monsieur qui joue des morceaux romantiques à la guitare et beaucoup de gens qui ont mal dormi. On monte dans le bus 72 qui longe la Seine et depuis le bus, on voit la Tour Eiffel et au loin Notre-Dame. On s'arrête chez Ikea, rue de Rivoli, pour acheter un coussin et des draps. Je me rappelle d'avoir fait ça avec mes parents au moment de commencer ma vie étudiante, et je suis touchée de vivre ça avec eux. Puis je les mets dans un taxi pour rejoindre le campus universitaire. Le 5 octobre, son mari repart en Allemagne, et je reçois cette note vocale de Marwa.
Hi, Caroline. I hope you're well.
C'est son premier jour de cours.
Cette nuit, il était à peu près 3 heures du matin. J'ai entendu un gros bruit, ça m'a réveillée. J'ai cru que c'était une explosion sur le campus. Alors je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre, mais tout allait bien. C'était silencieux dans les chambres. J'avais pas compris que c'était un coup de tonnerre. J'arrivais pas à dormir. Je viens d'un pays où il y a souvent des explosions, alors je devrais être habituée. Mais surtout, je devrais apprendre à ne plus avoir peur. C'est un pays sûr ici.
I woke up just 10 minutes before my
Du coup, je me suis réveillée 10 minutes avant mon cours. J'ai pas pu prendre de douche. Je me suis juste lavé le visage. Je me suis dépêchée de m'habiller pour arriver à temps en classe.
Quelques semaines plus tard, c'est Ra à Kaboul qui m'écrit pour me dire qu'elle a une bonne nouvelle. J'ai peur que ce soit ce que je pense, et puis ça l'est. Elle envoie une photo de l'échographie. Elle est enceinte de 6 semaines. Elle me dit que toute la famille est aux anges. Je la félicite, mais je ne comprends pas. On met en place tant de choses pour les aider à sortir. Avec un enfant, ça va être encore plus dur. Et en France, je me demande comment elle fera pour reprendre les études comme elle en rêvait. Ou peut-être que c'est moi qui en rêvais pour elle.
Thank you so much, Caroline. This might
Merci beaucoup, Caroline.
To you, but it's like,
tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais en fait, je veux gérer tous ces trucs de grossesse avant mon 25e anniversaire.
So after that, I want
comme ça, après, je pourrais être vraiment
relaxée.
J'aurais plus à m'inquiéter, you know, tu sais, de tomber enceinte, d'avoir à quitter mon job. Je sais qu'il y aura beaucoup de problèmes, mais je peux y arriver.
Je ne sais pas pourquoi cette nouvelle me perturbe autant. Je m'en veux de ressentir ça, et ce n'est évidemment pas ma place de me positionner sur ses choix. Je finis par envoyer une note vocale à Marwa pour lui demander de m'expliquer. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il y a un tel fossé culturel entre nous.
Hi Caroline, good morning.
Salut Caroline, je comprends que ça te semble étrange, que ce soit différent pour toi. Mais pour nous, c'est quelque chose de très... Je suis désolée de te le dire, mais c'est quelque chose de très normal. Et tout le monde s'attendait à ce que Ra tombe enceinte. Quand tu ne veux pas faire d'enfant, ça a créé de sérieux problèmes entre les familles.
Je ne sais pas pourquoi Marwa échappe à cette injonction. Peut-être parce que, juste après son mariage, elle et son mari étaient dans un camp de réfugiés. Puis Marwa a décidé de partir à Paris pour étudier, et l'un et l'autre affirment auprès de leur famille ce choix de ne pas avoir d'enfants avant d'avoir fini leurs études.
Ra m'a annoncé hier soir qu'elle était enceinte. J'étais heureuse pour elle, parce que comme tu l'as dit, c'est dans notre culture. Elle était heureuse, j'étais heureuse. Ensuite, on en a parlé. Et elle m'a dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'avoir un bébé maintenant. Qu'ils avaient fait attention, mais après quelques semaines, elle s'est aperçue qu'elle était enceinte. Maintenant, elle est à 5 ou 6 semaines, et en Afghanistan, l'avortement, c'est pas une option. Et voilà, c'est arrivé, il faut qu'elle soit heureuse maintenant.
Continue
comme ça.
Yeah.
Ra n'avait de toute façon pas envisagé d'avorter. Marwa me donne le sous-texte et des conseils pour l'accompagner. Je me dis que notre relation se déplace. Elle est devenue une intermédiaire ou une interprète socioculturelle. En tout cas, autre chose.
And I assume that this makes her,
je pense que ça va les inciter encore plus. Elle, son mari et sa famille a quitté l'Afghanistan. Parce que quand on regarde les problèmes, l'insécurité, la pauvreté, les luttes, le désespoir, personne ne veut rester là-bas et personne ne veut élever ses enfants en Afghanistan, malheureusement. C'est mon sentiment. J'espère que j'ai pu t'aider. Et j'espère qu'on va pouvoir arranger les choses et que ça ne va pas compliquer la situation.
Dans l'épisode 2, Ra va devoir décider si elle reste ou si elle part. Et pour Marwa viendront les premières observations, désillusions et émerveillements face à la société française. Si on regarde plus loin, on entendra dans les prochains épisodes le mari... Il est petite sœur de Ra, un petit frère de Marwa, devenu sauveteur dans une piscine de l'Arizona.
Oh, c'est quoi ça?
Ice tea.
Merci Anthony.
Les sensations quand on mange sa première pizza.
C'est magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur.
Et un journaliste qui s'est posé plein de questions éthiques à New York.
Alors, par où je commence
Maison de Radio France.
Outside Kaboul est un podcast de France Inter.